Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce studio de Radio Foot International sur la radio mondiale, bien sûr, et pour vous parler de football et plus précisément la Ligue des Champions. La Ligue des Champions et ses surprises, il y en a eu plusieurs hier soir et ce soir. À Madrid, les merengues affronteront les citizens. Et même avec un but d'avance, le Real le sait, tout est possible, todo es posible du côté de Madrid. Parce que les hommes d'Ancelotti ne sont pas sereins, surtout en Liga. Et parce que ceux de Pep Guardiola ont encore le talent pour se qualifier, avec notamment un certain Omar Marmouche. N'est-ce pas, Salim Bongali?
Absolument, avec Omar Marmouche, tout est possible, il a montré notamment ce week-end.
Oui, ce suspense en Absolument. Tout cas, suspense garanti du côté de Bernabeu, au moins jusqu'au coup d'envoi. Au Parc des Princes, les Parisiens ont tué le suspense à l'aller, prenant 3 buts d'avance. Pourtant, l'entraîneur des incroyables Brestois, Éric Roy, ose croire à une remontada. Dominique Sévrac, bonjour.
Bonjour Annie, j'irai vérifier ça tout à l'heure au Parc des Princes. Mais
faut-il croire Éric Roy?
En commençant par un cliché, tout est possible dans le football.
Dominique, ça veut dire quoi remontada déjà? C'est quand qu'on a utilisé ce mot pour la
première
fois?
Luis Enrique. C'était Luis Enrique qui était à Barcelone qui a remonté un 4-0.
Mais je ne sais pas contre qui.
Je vais trouver.
Ouais, c'est ça.
J'ai une heure, non?
Ouais, c'est ça.
Remontada, on aime tellement ce mot dans le monde du football. Il fait peur aussi, bien sûr. Hier soir à Lisbonne, le Benfica s'est lui qualifié sur le fil, car Monaco est passé bien près de l'exploit que nous prédisait Cherif Guémour. Les attaquants monégasques étaient là, mais pas les défenseurs. Et ça a donc donné une élimination sur laquelle nous reviendrons. Cédric de Oliveira est déjà en poste, déjà prêt à Madrid, puisqu'il sera dans le stade de Bernabéu ce soir. Et puis Sofia Damasian nous rejoindra dans quelques instants avant de partir avec vous, Dominique, au Parc des Princes. Pierre Guérin m'a aidé à préparer cette émission avec David Finzel. Laurent Salerno est aux manettes. Radio Foot, c'est parti.
Con fe, con tesón, con pasión, con huevo, Garrido Bellingham.
À la fin du premier acte, c'est le Real Madrid qui s'impose ici même face à l'un de ses pires ennemis.
Alors remontada, c'est un mot espagnol en fait, devenu évidemment international dans le monde du foot, tout comme peut l'être le mot italien, mercato.
Absolument.
Qui lui aussi, n'est-ce pas? On a un petit running game grâce à vous, Salim Bongali. Mercato, n'est-ce pas? En tout cas, les citizens rêvent donc à Madrid d'une remontada petite, puisqu'ils n'ont perdu que d'un seul but il y a 8 jours sur leur pelouse. Cependant, en sont-ils capables? À 4 heures du coup d'envoi, on sait que tout est possible et qu'un grand d'Europe, l'un des 2 derniers vainqueurs de cette Ligue des Champions, sera éliminé en barrage, c'est-à-dire une sorte de 16e de finale. Manchester City aimerait avoir retenu la leçon de ce match aller où il menait 2-1 jusqu'à 10 minutes de la fin de la rencontre. Bernardo Silva ne l'oublie pas.
Well, very disappointing for sure.
C'est une vraie déception, très honnêtement. Bien sûr, quand la saison débute, je ne vous aurais pas cru si vous m'aviez dit que Manchester City et le Real Madrid s'affronteraient en barrage. Nous sommes responsables de ces résultats. Nous méritons de disputer des barrages, car nous avons fini 22e, je crois, de la phase de Ligue. Si nous finissons par être éliminés à ce stade de la compétition, eh bien ce sera une leçon pour l'avenir. On a évidemment nos chances pour obtenir la qualification à Madrid, mais on retiendra la leçon pour le futur.
Un match qui donc aurait pu être l'affiche d'une finale et qui permet d'être passionnant dans l'ambiance de Santiago Bernabéu. C'est à Madrid et nous rejoignons Cédric de Oliveira. Bonjour Cédric.
Salut Annie, salut Radio Foot.
Cédric, est-ce que dans ce stade futuriste de la Casablanca, on attend déjà une rencontre des grands soirs?
Ah oui, il y a une petite excitation, on va pas se mentir, celle des grandes soirées européennes, on les aime bien, ces soirées à Madrid, on en a vécu beaucoup dans la version ancienne de Santiago Bernabéu. Vous parliez de stade futuriste, effectivement, qui a été rénové dernièrement. Grande soirée attendue face à un grand club, un rival. Effectivement, lui aussi, vainqueur de la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps, donc il y a deux ans. Et puis, c'est un classique, comme l'avait dit Carlo Ancelotti la semaine dernière à Manchester. Ils se croisent beaucoup, ces deux clubs. Et puis, ça, souvent, il se passe plein de choses. Hein, des matchs avec beaucoup de rebondissements. On l'a vu la semaine dernière aussi à Manchester. Donc voilà, beaucoup d'excitation, même si hier Carlo Ancelotti a dit on n'a rien fait, on a un petit avantage, il faut le faire fructifier. J'ai l'impression que c'était pas non plus un discours de circonstance, peut-être parce que lui estime que son équipe n'a pas vraiment de marge en ce moment. Et puis comme l'a dit Dominique Cérac, tout est possible dans le football. Donc Marca d'ailleurs a titré prohibido fiarce, ça veut dire excès de confiance interdit. Mais c'est vrai qu'à Madrid on a du mal à imaginer un tout autre scénario qu'une qualification.
Alors c'est vrai que dans ce genre de grande soirée, alors un peu dommage qu'elle soit en 16e de finale, mais Salim, dans quel état d'esprit, on va parler évidemment de la rencontre plus précisément après, mais dans quel état d'esprit arrivent vos citizens? Alors Pep Guardiola, on en a parlé hier, nous a fait le petit laïus de on n'a qu'un pour cent de chance de renverser les choses. Tout de suite, Carlo, justement, Ancelotti a répondu, oui, nous on n'a pas 99% de chance.
Oui, et d'ailleurs, Pep Guardiola, il a dit le 1% de chance juste après la victoire face à Newcastle ce week-end, 4-0. Lui-même a nuancé ses propos hier en conférence de presse en disant « Non, mais j'ai un peu menti, vous savez, j'aime bien, je sais que vous aimez bien les bons mots, etc. » C'est vrai qu'on les aime bien, au final, on les apprécie. Ce qui est sûr, c'est que City va un petit peu, parce qu'il y a eu le gros test face à Newcastle, et réussir à s'imposer comme cela, 4-0, face à Newcastle, j'insiste, on parle d'un gros d'Angleterre qui avait des garanties offensives et défensives ce week-end avec Marmoush, et ça va être une clé qu'on va évoquer dans un instant. On se dit tout d'un coup, alors que franchement, à l'issue du match aller, je donnais que très peu de chance à City, avec ce qui s'est passé ce week-end, avec la manière dont City a joué, tout d'un coup, je me dis, ah ouais, en fait, avec Marmoush et Haaland ensemble, en fait, City peut le faire face à cette défense qui pose question, celle du Real, est-ce que Rudiger sera là ou pas? Bref, beaucoup d'incertitudes. Tout d'un coup, je change d'avis.
Alors, Cédric, justement, cette belle ambiance, ça peut peut-être mettre un peu de baume au cœur au Real, parce que l'assurance, en tout cas, parce que pas sur le plan de la scène européenne, mais là, ces derniers temps, ils ont perdu un peu d'assurance, ces merengues. En championnat, ils viennent d'être dépassés par le Barça, même si c'est au nombre de buts et non pas au nombre de points. Et puis, ils sont dans une énorme bataille engagée avec l'arbitrage espagnol. Et du coup, on se demande un peu où ils ont la tête, ces merengues.
Oui, c'est vrai qu'il y a un contexte assez lourd autour du Real, en discutant ici aussi avec notre correspondant Pierre Chaperon. C'est vrai que, en fait, je ne sais pas si c'est le club qui ne peut s'en prendre qu'à lui-même, mais il y a eu donc plusieurs matchs, notamment celui face à Osasuna ce week-end, où le Real n'a pas compris certaines décisions arbitrales, notamment l'exclusion de Jude Bellingham je ne sais pas si on peut le dire à l'antenne, mais l'arbitre a estimé qu'il s'était fait insulter et lui dit qu'il a plutôt pesté contre lui-même. Enfin bref, en tout cas, c'est des décisions qui ne sont pas comprises par le Real Madrid, qui a quand même envoyé une lettre où il dénonce un système arbitral vicié et corrompu et un système qui est fait pour défavoriser le Real Madrid. C'est quand même très très fort comme mot. Et ils sont lancés avec les autres clubs de la Liga aussi dans une guerre un petit peu comme ça de communication et avec la Liga et contre ce système arbitral. Et d'ailleurs, hier encore, Carlo Ancelotti en conférence de presse, il a remis une petite couche, il a dit qu'il était plutôt tranquille avec les arbitres européens, plus tranquille qu'avec les arbitres espagnols. Non mais c'est assez fort comme mot aussi, venant de la part d'un entraîneur qui est connu pour son flegme plutôt. En tout cas, le Real, plutôt embêté par ça, en tout cas un contexte assez lourd, hors terrain on va dire, et hors soirée Ligue des Champions.
Un flegme gamin italien qui cache parfois son jeu, mais on peut presque en sourire quand même, Dominique, de ça, parce que Xavier Barrès se fatigue de nous le dire et de provoquer Rémi chaque semaine dans le Café des Sports, mais c'est vrai qu'on se dit toujours que l'arbitrage est plutôt favorable au Real d'une façon générale, pas seulement européen.
Je suis de la team de l'équipe Xavier Barrès. Ça paraît risible. Mais après, c'est un ressort vieux comme le football de se trouver
voilà,
des ennemis,
exactement.
Y compris imaginaires, pour se souder faire bloc et faire voilà, parce que le Real Madrid soit pas favorisé par les arbitres. Alors, je regarde pas tous les matchs de la Liga depuis 50 ans, mais je regarde beaucoup de matchs du Real Madrid depuis 30 ans en Coupe d'Europe, et en Coupe d'Europe depuis 30 ans, ils sont largement favorisés.
On se souvient d'un bras d'un autre Égyptien, oui,
Ramos,
la clé de bras sur Mohamed Salah, notamment.
Voilà, donc il y a souvent comme ça des décisions qu'on ne comprend pas. Des buts l'année dernière en huitième de finale, Leipzig-Real Madrid, un but annulé pour Leipzig au début de match, alors que
même on se demande encore pourquoi
avec quand on revoit la VAR et tout. Donc non, après c'est vu, j'ai regardé Osasuna Real Madrid. Bon, c'est vrai qu'il a pas voulu le dire, mais il a dit fuck you, c'est ce qu'a mis l'arbitre dans son rapport.
Lui dit pas ça, justement.
Lui, il dit fuck off. Voilà. Donc voilà, donc c'est bon, il y a divergence entre you et off. C'est, alors, à l'oreille, même si on parle pas anglais, je pense que l'arbitre fait une différence entre you et off.
Peut-être qu'il a entendu que le premier mot, justement, peut-être
oui,
aussi.
C'est possible. En tout cas.
Il est suspendu de match, hein, voilà, les gars.
Voilà. Donc, j'espère que ce soir, il va se rattraper.
Et ce soir, il jouera.
Voilà, pour lui. Donc oui, non, c'est risible. Barcelone ferait pareil, hein, si c'était Barcelone qui n'était pas content, parce que Barcelone a repris la tête du championnat, donc personne ne dira rien sur l'arbitrage.
Non, donc d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Lamine Yamal, hein, il a dit pourquoi.
On sait bien que Barcelone a aussi payé.
Il ne s'est pas encore jugé.
Petite rôle du côté du Barça. Ouais.
C'est grosse même, hein, Cédric.
Mais c'est pour ça qu'on fait cette digression sur l'arbitrage avant de revenir pleinement sur la Champions. C'est vrai que Lamine Yamal, ses mots sont très clairs, hein, dans le Mundo Deportivo. Il dit je pense que le Real, le Barça et l'Atlético, nous ne pouvons pas nous plaindre, sous-entendu, d'arbitrage. Donc Lamine Yamal, effectivement, le dit sur les trois. Mais c'est vrai que ce contexte global, vous avez un Carlo Ancelotti, on l'a rarement vu comme ça, quand même, dans sa carrière au PSG, au Bayern, en Angleterre, et donc là, désormais au Real, être aussi vindicatif, véhément même, en conférence de presse, furieux, vis-à-vis donc de l'arbitrage. Alors certes, il suit la communication et la direction de son club, de sa hiérarchie, de son patron, mais quand même, de le voir comme ça. Donc ce contexte, vous avez sportivement, vous avez été dépassé par le Barça, vous avez en face une équipe de City. Alors certes, vous l'avez battu à l'aller, mais ça s'est joué à pas grand-chose au final. Une erreur de défense, l'erreur défensive sur le troisième but,
elle existe vraiment. Ils étaient menés 2-1 et ils arrivent à gagner 3-2.
Mais avec quand même une grosse erreur sur le troisième but du Real. Bref, vous dites tout ça aggloméré, on se dit que le Real est bizarrement pas d'une sérénité absolue, alors que le Real joue à domicile et que habituellement le Real à Bernabéu est quand même au-dessus.
Tu as vu que cette saison ils aimaient pas trop les arbitres ou les règles. Quand ils apprennent qu'ils sont pas ballon d'or, ils ne viennent plus.
Absolument.
Au mépris d'une récompense qui les a consacrés.
Il y avait un tifo qui leur a dit clairement d'ailleurs.
Voilà, c'est quand même un club qui a été multiple ballon d'or. Donc bon, ils ont pas la classe de leur rang.
Ouais, ça c'est possible. Le Real, en tout cas, est une équipe, bon, on le sait, hein, sur la scène européenne, qui quand même paraît toujours jamais rassasiée. Et Federico Valverde, il a déjà fait une longue expérience de cette équipe toujours morte de faim quand il s'agit de Ligue des Champions. Et il en témoigne au micro, justement, de notre correspondant Pierre Chaperon.
On n'a pas besoin de remonter le score, du moins pour le moment. Donc on est plus tranquille sur ce point. Mais bon, au final, l'important est d'entrer sur le terrain concentré, fort, et d'essayer de faire en sorte que ce soit une belle soirée, une nuit dont tous les supporters se souviendront, un match qui nous rapprochera du titre. Je suis très content de ce que nous avons fait à l'aller. Il y avait beaucoup d'envie, et je suis très motivé parce que je vois comment l'équipe travaille. Je vois la détermination de mes coéquipiers, je vois comment tout le monde s'entraîne ces derniers jours. Cela apporte une grande sérénité, car nous savons que l'équipe sera bien. Tout ça me donne beaucoup de calme et aussi beaucoup de confiance pour aller chercher la qualification.
Cédric, Federico Valverde, l'Uruguayen, dit calme et confiance pour se qualifier. On le sait, cette équipe ne panique jamais trop, même quand elle est menée. Ils ne sont pas vaincus à Bernabeu depuis qu'ils avaient joué face à Chelsea en avril 2022, donc il y a 3 ans. Mais par contre, on se souvient quand même de quelques raclées qu'ils ont prises récemment, notamment celle de Barcelone, un 4-0 sur leur pelouse.
Ouais, ben je vous dis, c'est un peu ce que je vous disais en ouverture, mais il y a de la confiance du côté du Real. En fait, quand vous arrivez à Valdebebas, vous voyez toutes les photos des Ligues des Champions. On a gagné 15 Ligues des Champions, donc en gros, peu importe qui vous avez en face de vous, les supporters que vous croisez, ils vous disent non mais de toute façon c'est notre compétition. Donc ils ont gagné 15, c'est quand même plus du double que n'importe quelle autre équipe européenne. Donc voilà, il y a un discours qui reste parfois de prudence par rapport, on va dire, de respect par rapport à l'adversaire, parce que en face il y a Pep Guardiola, il y a des joueurs comme Erling Haaland, il y a une équipe de Manchester City qui peut arriver à renverser parce qu'il y a du talent. Mais surtout quand vous voyez le scénario du match aller avec des erreurs défensives qui ont été tout de suite exploitées en fin de match par Madrid. Bah forcément, ça vous donne cette confiance là qui, c'est le mot qui a été beaucoup répété aussi par Carlo Ancelotti. C'est la confiance. Tout le monde est tranquille.
Voilà. Ouais. En tout cas, c'est le message qu'ils font passer. Dominique, c'est vrac. Il avait marqué au match aller. Est-ce que pour vous, c'est un match pour Kylian Mbappé?
Oui, parce que je pense que la configuration du match, je pense que City ne sait pas faire autre chose que d'essayer d'avoir le ballon. Et que le Real Madrid va se faire un malin plaisir de lui laisser le ballon, et que donc il va le contrer en attaque rapide. Et en ce moment, vu les jambes qu'il a, parce que Kylian Mbappé a retrouvé toute son coup de rein, ses appuis aériens, ses semelles devant, qui font de lui l'un des attaquants les plus rapides du monde. Non mais c'est fou. Hein. Et puis comme Vinicius et Rodrigo sont pas vraiment lents non plus, je pense que City défend très mal. En fait, je vois pas comment City peut s'en sortir.
C'est vrai que ce que vous disiez sur la légèreté même de Kylian Mbappé, le but qu'il marque face à Osasuna, le 1-1...
Ouais, il part de loin. Hein.
C'est ça, il part de très loin. La vitesse qu'il prend et au final, la différence qu'il fait sur son défenseur et surtout l'attaque au premier poteau, là, on se dit, waouh, un 9, un vrai 9. L'attaque, la manière dont il l'a fait, Mbappé, c'est 11 buts sur les 10 derniers matchs. Je me fais mon Rémy Ngono à vous de sortir des statistiques. Sauf que cette stat-là, elle dit tout. Là où Vinicius, il ne marque que très peu en ce moment.
Non, mais il a perdu 1 ou 2 kilos depuis Noël et c'est plus du tout le même joueur.
Ah, exactement.
En fait, il est bien.
Affûté, comme on dit.
Regardez, l'année dernière, il n'est pas bon avec le PSG, il met 44 buts. Alors, imaginez le jour où il sera bon, quoi.
Et c'est maintenant.
C'est le retour en tout cas. C'est pas encore. Il n'est pas encore. J'ai connu Kylian Mbappé meilleur, mais il est vraiment sur le chemin du retour.
Et imaginez.
Et puis en plus, il a de la réussite. Regardez le but qu'il met au match aller. Alors après, il y a tout qui est beau parce qu'il fait l'appel au bon moment. Mais c'est vrai que même en ratant un petit peu sa reprise, il arrive à mettre un but au fond. Donc il est en pleine confiance aussi.
Spectaculaire.
Et imaginez quand tous seront en même temps en forme. Vinicius, Bellingham et Rodrigo, parce qu'au final c'est par séquence. Mais il y a des moments où Vinicius, Mbappé marche bien, d'autres moments c'est moins le Brésilien plus avec Bellingham, d'autres moments c'est même avec Rodrigo. C'est là et c'est le souci
procédural. Théoriquement c'est maintenant qu'ils commencent à être tous
en c'est souvent
en
au printemps, c'est
on
là où on les
parle plus trop de position sur le terrain, on parle plus de machin marche sur les pieds de machin.
Absolument.
On est revenu à du foot quoi.
On est passé à autre chose. En tout cas les Citizens, eux, sont capables du meilleur comme du pire. Hein. Mais cette saison, le problème c'est, Salim, ils ont du mal à convaincre parce qu'ils n'arrivent pas à battre des gros. Alors vous parlez de Newcastle, c'est vrai que c'est pas un des moins bien classés du championnat, mais c'est pas non plus Liverpool ou Arsenal. Est-ce que il y a encore de la magie pour croire que ce soir ils vont faire quelque chose à Bernabéu?
Le truc c'est que souvent on reste dans le doute, vous voyez, on se pose des questions, en tout cas on s'interroge parce qu'on se dit, ah mais avec Guardiola tout est possible, il peut nous trouver le petit truc, le petit déclic. Marmouche, ça peut être ce petit déclic. Encore une fois, ce match face à Newcastle, on s'est dit, ah, il y a un duo qui se dessine avec Marmouche qui tournait tellement bien autour de Haaland, ça a fonctionné comme à l'époque, la plus belle époque, quand Julian Alvarez tournait très bien autour de Haaland. Maintenant, cette magie, on l'a attendue très souvent cette saison en Champions League. Je me souviens d'un match au Sporting où il mérite un but très vite. On se dit, bon, c'est bon, ils perdent 4-1 ce jour-là contre PSG. Le meilleur exemple, c'est PSG au final. Ils gagnent 2-0. Là, on se dit pas, c'est de la magie parce qu'ils sont pas bons face au PSG. Ils mènent 2-0. On se dit, ah, ben la magie, finalement, elle a été trouvée et on a vu le résultat final. Donc, Guardiola réussit presque à incarner cette magie et on se dit qu'avec lui, tout est possible. Il peut trouver le bon truc. Peut-être qu'il l'a trouvé encore une fois contre Newcastle. C'est de là où moi je conserve un espoir, on va dire, pour City.
J'ai vu le match à Nice, c'est 2-2 ce soir. J'ai déjà vu le match, c'est 2-2. Je vous le dis, hein. Il y a beaucoup de buts.
C'est en rêve ou c'est dans du bar de café?
Je refais mon Rémy Ngolo, décidément. Sur les 11 dernières rencontres, en moyenne, c'est 4 buts par match. Donc 2-2, ça passe bien.
Voilà. Ouais. En tout cas, vous faisiez allusion à ce match de Newcastle. Eh bien, c'est évidemment cet Égyptien débarqué véritablement en fin de mercato, venu de Francfort, qui a marqué les esprits. Et c'était en Première Ligue. Sheffield's underneath it, Marmouche is through and scores his first City goal. Omar Marmouche. Gundogan. Now Marmouche opens up. Two goals. Two in five.
minutes. Omar Marmoush, Cavinho Marmoush, hat-trick. A hat-trick in 14 minutes. And City have their very own Egyptian king. There's two Egyptian superstars in the Northwest.
Un hat-trick en 14 minutes, vous avez entendu. Omar Marmoush est-il vu à Madrid, Cédric, comme le nouvel atout de Pep Guardiola, en plus de ce qu'il a, et notamment un certain Haaland?
Non, je suis désolé, je vais complètement dégonfler là, votre sujet, mais vraiment pas du tout. En fait, c'est à Madrid, on est un peu, basique, mais oui, c'est Guardiola et Haaland. En fait, c'est vraiment les deux noms qui sont ressortis. Et voilà, il y a une sorte de duel à distance entre Mbappé et Haaland. En plus, Haaland a mis un doublé au match aller, donc voilà, ils étaient plutôt curieux de savoir s'il allait vraiment pouvoir tenir sa place, lui qui est sorti blessé d'ailleurs. Contre Newcastle et voilà les petites sorties de Pep Guardiola. Mais Marmoush, bon, on a un petit peu évoqué le sujet, mais ils ont dit ah oui, un mec a mis un triplé, bon d'accord, mais bon, c'était contre Newcastle, c'est pas pareil quoi. Voilà, c'est un peu, il y a,
ça, c'est sûr,
il y a pas vraiment cette crainte venant ici à Madrid.
Alors Salim, lui, est très enthousiaste avec Omar Marmoush.
Disons qu'il montre encore une fois des choses. Bon, au-delà de ce qu'il a montré en première partie à Francfort, qui a été phénoménal.
En plus de triplé.
C'est peut-être pour ça aussi que City a déboursé près de 80 millions d'euros pour s'attacher ses services. Ce qu'il a montré lors du triplé contre Newcastle, ce qu'il a même montré lors du premier match face à Chelsea, lors d'une victoire, ce jour-là, il n'avait pas marqué, certes, mais vraiment, cet impact-là... C'est tout ce que Julian Alvarez apportait avant. Ce départ-là n'avait pas été compensé au final par Manchester City parce que c'était une perte. Et en plus, Haaland n'avait plus de remplaçant. Là, aujourd'hui, on se dit, si Haaland est blessé, il a un remplaçant. Et puis, si Haaland est là, vous avez deux joueurs capables de jouer ensemble.
À la place de qui, alors? Comment? S'ils jouent ensemble, c'est à la place de qui? Tu enlèves qui?
Aujourd'hui, dans un cas... Pour moi, alors comme contre Newcastle, c'est terrible, comment je le dis, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, merci pour tout ce que tu as fait parce que tu es un joueur absolument phénoménal.
C'est radical.
Bien sûr, mais contre Newcastle, il n'était pas là. Et on a vu un milieu de terrain maîtrisé comme pas possible, celui de Newcastle. Alors on va me dire, c'est celui de Newcastle, celui du Real est un autre.
Beaucoup d'état d'âme. Hein,
bien sûr, mais et à un moment donné, il faut être pragmatique. C'est terrible, c'est triste, hein, comment je le dis. Kevin De Bruyne est l'un des plus grands d'histoire à ce poste, il n'y a pas de problème. Mais contre Newcastle, on a vu ce que ça a fait et potentiellement ce que ça peut faire contre le Real, où il y a du rythme, où il y a de la puissance, de la vitesse que Kevin De Bruyne n'apporte
plus
désormais.
Physiquement, il n'est pas au sommet.
Donc Dominique, dans votre rêve, c'est Marmoush qui met un doublé pour City.
Mais il n'a pas vu la fin du rêve, il n'a vu que le score. Mais en fait.
Oui, je me suis réveillé au moment du tableau d'affichage.
Il n'a pas vu la ligne des buteurs.
6 minutes de temps additionnel, ça va être très long.
En tout cas, qui verra le temps additionnel et le panneau d'affichage? C'est vous, Cédric, n'est-ce pas, hein? En direct du
Annie,
stade.
Prolongation, allons-y, jusqu'au tir au but, allons-y. Cédric, il en rêve.
Pourquoi pas d'ailleurs, vous parliez de la dernière victoire, en tout cas la dernière défaite, pardon, du Real à domicile. C'était face à Chelsea.
Ouais,
Le Real, c'est donc effectivement défaite, mais le Real s'était qualifié dans la foulée après une prolongation avec. L'époque où Benzema marchait sur l'eau et Rodrigo aussi. Rodrigo avait été très bon ce soir.
Il finira Ballon d'Or.
Donc rendez-vous avec vous, Cédric, et avec donc Pierre Chaperon à partir de 19h40 en temps universel. Et ça sera la retransmission intégrale de la rencontre. Babacar Diarra sera en studio à Paris pour relayer les commentaires de nos auditeurs. Et puis Patrick Juillet suivra ce match et les autres rencontres. Merci beaucoup, muchas gracias, Cédric, à tout à l'heure.
Merci à vous, à plus tard.
À salut. Tout à l'heure. Et justement, alors, un match pour nous mettre en appétit, puisque Paris-Brest, ça peut faire penser à un excellent dessert
tout
français, très traditionnel.
Non, c'est du gâteau.
Et bien voilà. Et ça sera sous le regard de Sofiane Amazian.
C'était un match équilibré, on va dire que Brest a eu les occasions et Paris aussi. Brest n'a pas concrétisé suffisamment.
Dembélé sur le pied gauche. Ousmane Dembélé impitoyable. Encore un but contre Brest.
On méritait beaucoup mieux. Au moins un but, au moins un. Maintenant, trois, c'est sévère.
Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est dommage, on a les occasions, on les met pas au fond. On tape deux fois le bon temps, c'est dommage.
Voilà, on espérait le petit but de l'espoir en deuxième mi-temps qui n'est jamais venu. Et puis voilà, ils nous ont tués sur le troisième.
Le PSG ne laisse aucune chance au Stade Brestois. 3-0 à 25 minutes de la fin.
On pense qu'on ne pourra pas gagner 4-0 au Parc. Mais on va tout faire pour rentrer le peuple brestois.
Pour refaire une Barcelone PSG, quoi.
Paris, c'est l'équipe de la remontada, donc à 3-0, on a presque plus d'espoir qu'à 0-0, quoi.
Ils sont piquants comme des chardons bretons, ces pirates, à l'abordage du Parc des Princes ce soir, où vous serez aussi. Bonsoir, Sofiane Amazian.
Bonsoir à tous.
Et Dominique, donc, hein, vous ferez équipe.
Évidemment.
L'équipe du Stade brestois, elle, plutôt épatante et séduisante depuis le début de la compétition européenne, pourrait disputer son dernier match européen, tombé sur le PSG. Eh bien, les Brestois ont donc perdu il y a une semaine ce fameux 3-0, un score qui assure a priori donc la qualif des Parisiens. Le feront-ils ? Eh bien, leur entraîneur Éric Roy semble s'amuser. Il pense que ces pirates peuvent aussi créer la surprise.
J'ai joué un match où je perdais 4-0 à la mi-temps et où j'ai gagné 5-4. Pour nous, moi, 3-0, il reste en plus 90 minutes et pas que 45 minutes. On va dire que c'est quelque chose qui est dans mes cordes. Si j'arrive à le transmettre à mes joueurs, on ne sait jamais. Les leviers, je vais essayer de les trouver dans la nuit. Là. Je vais essayer de bien dormir dessus et d'avoir des mots justes pour préparer ce match et dans la causerie. Mais il est évident que déjà, de vouloir faire un véritable match, d'avoir bien sûr un peu plus de réussite. Parce que comme on l'a dit, au-delà du score fleuve, on ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup de faits de jeu pour nous. En ce moment, on n'a pas trop en plus les dieux du foot avec nous. Donc bon, si on souffre depuis quelques semaines pour que tout s'aligne, pourquoi pas, quoi. Mais en tous les cas, c'est ce qu'il faudra, ça c'est sûr.
Il a vraiment disputé un match où de 4-0, il est passé à 5-4.
Le match légendaire, saison 98-99. Nous sommes en août 98. Marseille est mené à la domicile par Montpellier 4-0. Et l'OM, tout d'un coup, avec la fameuse séquence où Roland Courbis revient sur la pelouse avec Laurent Nicolas, à l'époque le président de Montpellier, et lui dit t'inquiète, on va gagner 5-4. Laurent Nicolas qui explose de rire, le président de Montpellier, et effectivement Marseille marquera 5 buts. D'ailleurs Éric Roy marque lui le but du 4-4, le but égalisateur, avant que Marseille ne marque le 5e but par Laurent Blanc sur penalty à l'époque.
Il était un peu fautif sur quelques buts.
Totalement.
Espérons qu'il aura trouvé les mots, donc peut-être. Est-ce que selon vous il y a suspense ce soir au Parc des Princes, Sofiane Amazian?
Bon, on va pas insulter le football, tout est possible. Je vous fais un petit poncif pour voilà, on fait équipe avec Dominique. Ah, ça va être très compliqué, hein. Très très honnêtement, vous parliez du match aller, le Paris Saint-Germain en 2025, c'est une équipe éclatante. On a l'impression que aujourd'hui ça y est, il y a vraiment un niveau de différence avec certaines équipes, et c'est là où
un
on voit
que palier franchi,
ah, bah,
enfin,
c'est clair,
face à City bien sûr.
Et c'est là qu'on peut mettre en perspective aussi le magnifique parcours de Brest, première campagne de Ligue des Champions, arrivée en barrage. Mais voilà, là on joue les cadors européens et il y a une vraie différence. Alors on va peut-être en parler. C'est vrai qu'au match aller, il y a eu des faits de jeu, il y a eu 3 poteaux pour Brest. 3-0, c'est peut-être un peu sévère, mais
non, parce
en face
qu'il y
vous
y
avez
un moment où ils auraient pu égaliser.
Ah, ils ont des vrais temps forts, Brest, face au Paris Saint-Germain. Mais les deux derniers matchs, ça fait 5-2 en championnat, ça fait 3-0 en barrage, et vous avez un Ousmane Dembélé qui met un triplé puis qui met un doublé. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est Brest avec les forces de Brest face à cette armada parisienne, surtout offensive?
Juste simplement, Éric Roy, quand il tient ce discours, il a raison de tenir. Il va pas dire à ses joueurs, et surtout en conférence de presse, non, on n'a aucune chance, hein. Nous, on vient
c'est en tourisme. Clair.
Évidemment qu'il doit tenir ce discours-là. Est-ce qu'il le pense vraiment, ça c'est autre chose, mais il se doit de tenir ce discours.
Oui,
Dominique.
Il dit ça pour sortir la tête haute, en fait.
Absolument.
En fait, l'idée, c'est soit de gagner, par exemple 2-1, 3-2, ou de marquer quelques buts.
C'est ça.
S'ils perdent 3-2, c'est pas honteux.
Voilà, est-ce que c'est parce qu'ils les connaissent trop, ces joueurs du Paris Saint-Germain, que finalement, l'enjeu paraît malheureusement penché du côté du Paris Saint-Germain?
Je ne sais pas, il y a vraiment une domination sur la France, sur la scène française du PSG.
Parce que Feyenoord ou peut-être Lyon AC, je ne sais pas si ça aurait donné le même.
La puissance économique, l'effectif, la rotation, quand ils vont à Toulouse, ils peuvent se permettre de mettre la moitié de l'équipe sur le banc, Éric Roy n'a pas pu faire, lui, contre
Auxerre. Il a fait un petit peu tourné.
Il a joué la veille. On a senti quand même qu'ils sont physiquement, ils sont quand même dans le dur, alors que Paris, au contraire, semble vraiment. Paris marque la majorité de ses buts en deuxième période. Ça veut dire quand même qu'ils fatiguent l'adversaire et qu'ils ont un second souffle que ne retrouve pas Brest. Là, il y a une différence, un écart abyssal. Mais Brest, la dernière au Parc, c'est 2-2 en janvier, là où PSG se cherchait encore. C'est un club qui embête toujours Paris, alors qu'ils gagnent ou ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas gagné.
Ouais, 85.
Ouais. Donc ça fait longtemps qu'il y a des problèmes. Mais sur les 2-3 dernières années, il y a toujours des problèmes, Brest pose toujours des problèmes. Quand on regarde le contenu, c'est jamais le score final qui raconte vraiment le match. C'est beaucoup plus serré que c'est
c'est souvent l'Ouest de la France, hein, parce qu'on se souvient de Lorient pendant un moment qui embêtait souvent le PSG en début de saison. Rennes, qui leur avait ravi cette
Coupe de France. Paris est souvent à l'Ouest, c'est ça que vous voulez dire?
Ça pourrait être ça, Dominique. Il y a un face-à-face qui va peut-être être amusant, mais en tout cas intéressant. C'est celui des buteurs de ces deux équipes, théoriquement. On a Dembélé qui est sur un nuage.
Alors répétez-le, un buteur Dembélé, parce qu'il y a quelques mois, on avait des doutes.
Même moi, ça me surprend de le dire. Mais donc Dembélé, et puis Ajorc en face, qui est deux fois plus grand que lui et deux fois plus carré que lui, je pense. Est-ce que cette confrontation, elle peut être intéressante?
Ah bah évidemment, déjà en parlant de Ousmane Dembélé qui marche sur l'eau en 2025.
On a l'impression qu'il touche plus la mire en ce moment.
Ah c'est incroyable, parce qu'il, ah bah c'est clair, en Ligue des Champions, Ajorc il a pas marqué.
Après il embête bien les défenseurs. Hein.
Non, faut savoir juste qu'en championnat, il a marqué sur les 6 derniers matchs de Ligue 1. Il est à 10 buts en championnat, c'est un serial buteur, hein, Ludovic Ajorc, très grand, c'est un pivot, il fait du mal aux défenses adverses, il fera sans doute mal à la défense parisienne, mais il y a ce petit step
à... vu Pacho aussi mauvais en Ligue des Champions qu'avec Ajorc.
Ah, c'est vrai que
Ajorc pose un vrai problème.
Il faut se le coltiner, hein, Ludovic Ajorc sur 90 minutes. C'est un joueur qui en veut de la première à la dernière seconde du match. Mais en face, vous avez, on parlait du trident offensif. On met en avant Ousmane Dembélé qui marche sur l'eau offensivement. C'est vrai que maintenant, dès qu'il cadre, il marque pratiquement. c'est exceptionnel.
Il est bien aidé. Barcola, Doué.
Vous avez un Bradley Barcola, vous avez un Désiré Doué, vous avez Ivichak Varatskelia, le géorgien.
Ah, tu le dis bien. Hein.
Non, je me sens entraîné.
Ça fait des années qu'on en parle du côté de Naples, à Radio Foot.
Offensivement, les galettes que peut avoir Ousmane Dembélé, qui est parfois repositionné numéro 9, parfois il va aller sur le côté. Les trois, c'est très très dur.
J'ai l'impression qu'il s'essouffle moins sur des sprints qui, certes.
Bah, il a moins d'efforts à faire.
Plus concentré sur le but.
Je pense qu'il a changé ses appuis à l'approche du but.
Ah, complètement.
Il rentre plus dans le terrain et donc il frappe plus le corps penché en avant et non penché en arrière. Et donc tout ça change sa efficacité, parce qu'avant il penchait son corps, plutôt il allait en arrière
et donc le
ballon s'envolait et ses appuis n'étaient pas des appuis de buteur. C'est très différent en fait le métier de buteur que le métier d'ailier. Et lui, comme il a gardé sa capacité à être faire des différences sur le côté, mais aussi maintenant à marquer, il a étoffé sa palette. C'est très très rare dans l'histoire du football qu'un joueur de 27 ans se transforme, mais c'est ce qu'on est en train de voir. Alors moi je me pince tous les jours
et c'est même
je me dis que ça va pas durer.
Non, et c'est même beau à voir, oui. Alors après, lui aussi, on le suit depuis Rennes, ça fait 10 ans,
ça arrive
presque
à 19
8 ans.
Ça arrive à 17 ans, ça arrive à 21 ans.
Parce qu'il est enfin libéré, j'imagine, Dominique. Vous disiez, c'est vrai que le poste naturel d'Ousmane Dembélé, c'est être ailier, mais on a l'impression depuis l'éclosion de Désiré Doué ces derniers mois, qu'il est libéré de cette obligation de faire le jeu, de créer les espaces et les actions offensives. Et maintenant, il peut plus se concentrer sur sa nouvelle vocation. C'est vrai qu'à 27 ans, on a du mal à voir un joueur se transformer radicalement, mais c'est ce qui se passe. Il a moins aussi la charge du jeu. Oui. Il y a trois joueurs offensifs.
Tu as raison de parler de Désiré Doué, parce qu'en fait, c'est possible ce système s'il y a quelqu'un à droite qui tient la route. Et en fait, on parle tous de Dembélé en ce moment parce qu'il marque des buts, mais en fait, ça marche parce qu'à droite, il a trouvé une force.
C'est un système.
Désiré Doué. Ouais. Et donc, Désiré Doué, il a un peu la clé qui permet parce que si Doué était nul, Dembélé serait revenu à droite et donc ils auraient toujours
Les frappes seraient parties en tribune.
Et ils auraient toujours ce problème d'efficacité au centre. Donc, c'est Doué qui donne la clé à tout, en fait.
Oui, et finalement, dernière question pour vous, Salim. Est-ce que vous pensez que les Parisiens vont les attendre tranquilles à domicile, ou on peut compter sur Luis Enrique pour ne pas faire de quartier?
Typiquement, c'est le discours qu'il a un peu tenu, Luis Enrique, hier en conférence de presse, en disant qu'il ne prenait pas de haut ce match, justement, même si l'avance est réelle. Je ne suis pas certain que ce soit l'attitude de Luis Enrique, effectivement.
Genre,
c'est certes son discours, mais je pense qu'il l'appliquera effectivement de prendre de manière sérieuse, parce qu'il veut être sérieux et montrer. C'est aussi ça, toujours la symbolique de montrer aux autres, regardez, on est toujours là, on est toujours présent, même si on a une large avance.
Et puis ils savent, Yannick, que s'ils ne sont pas bons, ils ne verront pas les prochains matchs. Hein. Ils savent qu'avec lui,
absolument.
C'est un peu impitoyable. Donc ils ont intérêt à être bons, y compris quand
réaliste,
ça paraît facile. Ils ont intérêt, au moins dans le contenu, à faire un bon match.
Ouais.
Parce que sinon, dès le match contre Lyon dimanche, ils savent qu'ils peuvent le regarder depuis le banc.
Et puis Annie, rapidement, c'est vrai qu'on pense évidemment à ce barrage retour. On imagine que le PSG va vraisemblablement se qualifier. Mais derrière, vous allez affronter Liverpool ou le Barça. Imaginez faire un mauvais match face à Brest. Dans deux semaines, vous affrontez une des meilleures équipes d'Europe. On va pas leur pardonner.
Ouais. Bon, ben, on vous retrouvera vous aussi dans la soirée spéciale sur RFI en direct du Parc des Princes.
Ouais, exactement.
Vous regarderez pas trop Dominique, hein, vous copiez pas sur lui. Mais...
Non, je copie pas. Ce sera concentré sur le terrain.
Et Dominique, vous copiez pas sur Sofiane. Hein.
Mais j'écouterai RFI. J'écouterai RFI, comme ça j'aurai à la fois Manchester, j'aurai Real Manchester et j'aurai Sofiane.
C'est vrai.
En tout cas, merci Sofiane et à tout à l'heure sur RFI. Nous, avant de continuer, on va écouter de l'Ethio Jazz avec Arat Filofit et Mamani Keita Mbendia. Venia, venia la foro a sanuna ne venia, venia la foro a finina ne venia, venia, candia, candia, candia. Lay back like a Commodore, keep it easy like a Sunday morn. Fair girls, red pompadour. When I chill offshore. I sleep eight despite the war. That way I can fight some more. Fight for peace seeps out my pores. I put in work before the storm. Sur la playlist de RFI Musique. En quelques mots, deux matchs encore ce soir au programme. D'ici peu, dans une heure, coup d'envoi au Westfalen Stadium de Dortmund. Le BVB reçoit le Sporting Portugal avec, ah bah tiens, Dominique, c'est pour vous ça, avec 3 buts d'avance au pied du mur jaune en plus. Hein, ce mur jaune qui chante si bien le Will Never Walk Alone. Est-ce qu'ils sont tranquilles, même s'ils vont si mal en championnat, ces jaunes et noirs?
Ça arrive qu'une équipe soit complètement absente dans une compétition et très forte dans l'autre. Alors ça dure pas tout. Je vois mal Dortmund rééditer son espoir de la finale. Hein. Mais
ils sont un peu comme Brest.
Oui. Mmh. Après Brest en championnat, ça va. Ils recollent un petit peu là, mais
ils reviennent. Mais ouais, c'est très peu, très très récent. Ouais.
Oui. Mais c'est vrai qu'ils étaient quand même bien décrochés au début de saison. Brest, ils ont du mal à avoir un effectif qui fait les deux. Mais en tout cas Dortmund, ce soir, c'est tranquille. Pareil. Hein. Ça peut faire match nul, mais ça va passer.
C'est Rougirassi, en plus, meilleur buteur de la compétition en ce moment. L'international guinéen, eh bien, il sera évidemment dans leur rang. Pour vous, Salim, votre commentaire sur ce match aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven, qui accueillera la Juve, qui s'était, on s'en souvient, difficilement imposée à Turin sur le score de 2-1. Est-ce que la Juventus sera le 4e club italien éliminé ce soir au désespoir de Matteo Cioffi? J'espère qu'il n'écoute pas.
C'est vrai qu'on a vu effectivement l'Atalanta et Milan se faire humilier. C'est vrai que la Juve, là on parlait de garantie tout à l'heure, ou en tout cas de certitude que me donne par exemple un Marmoush à City. Pardon, mais quand je vois City, et ne serait-ce que le match aller, les certitudes, je ne les vois pas trop.
En mais ils ont Colomouani.
Alors vous avez raison de me reprendre.
Je sais.
C'est vrai.
C'est leur marmouche.
Mais vous avez absolument raison. Vous avez totalement raison, frère Ronald Colomoni. Lui, typiquement, c'est des certitudes. En tout cas, il est très étonnant. On l'a vu face à l'Inter ce week-end. Mais défensivement, pardon, hein, je continue d'être très dubitatif. Le nombre d'opportunités qu'ils ont pris face au PSV Eindhoven lors du match aller, et même durant toute cette saison, ce PSV Eindhoven-là peut sortir la Juve. Vraiment, je le pense.
C'est un peu le cas de toutes les équipes qui défendent bien en fait en Ligue des Champions.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Qui défend bien.
On a l'impression que là, fait, c'est Paris, tout vers exemple, l'avant en
Paris,
ce moment.
Paris ne défend pas bien du tout. Paris concède un nombre d'occasions incroyable, qui est but ou pas but. Ils vont le voir après contre Liverpool ou Barcelone, ils vont voir un peu la différence. Mais je ne trouve pas l'équipe d'Europe qui défend bien. Ouais. Parce que l'équipe qui défendra le mieux, c'est celle qui gagnera la Coupe d'Europe.
C'est vrai qu'on est en mode prime à l'attaque, l'équipe qui marque mieux, un but de plus que l'autre.
Alors, oui,
au niveau spectacle, mais c'est vrai qu'au niveau de l'assurance, parce que non, un coach
veut quand même
que
les buteurs coûtent tellement cher maintenant.
Non, mais peut-être Liverpool, mais bon, là, ils sont un petit peu en train de fatiguer, mais sinon, Liverpool, peut-être qu'ils défendent mieux en Europe.
Et encore, on les a vus l'autre fois. Face à une équipe de 4ème division,
oui,
c'est ça.
Oui, très limité par Plymouth. Après, ouais. C'est un contexte particulier, Vanda, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Ouais.
Et bien, justement, une équipe qui aurait bien aimé mieux défendre hier soir, elle s'appelle Monaco.
Ce ballon va filer, c'est fini. C'est fini. Magnifique. Ce sont les Monégas qui quittent la Ligue des Champions, éliminés à cause des erreurs défensives ce soir.
Des Monégasques si près de l'exploit hier soir dans la très chaude ambiance des Stadio d'Alouche face au Benfica, Monaco a fait illusion en inscrivant 3 buts alors qu'ils en avaient seulement un de retard. Seulement, le score final à la fin, c'était 3-3 et l'ASM a été éliminé. L'entraîneur Hütter, comme ses joueurs, ne cachait pas évidemment leur déception à la fin du match et l'international sénégalais Crépin Diatta était très déçu.
C'est vraiment dommage, surtout pour nos supporters qui sont venus aujourd'hui, tout nombreux pour nous pousser, qui nous ont donné de la force. On ne peut que dire désolé de ne pas pouvoir prendre cette qualification parce qu'il y avait vraiment de la boisse. Je pense que la meilleure équipe aujourd'hui, je peux dire que ça a été la Monaco. Ça n'a pas suffi, mais on va apprendre ça. Et il y a un gros match qui nous attend aussi ce week-end. Il faut se remobiliser et se dire que si on veut vraiment l'année prochaine jouer cette Ligue des Champions, il va falloir sortir des performances comme ça en Ligue 1.
Alors, des performances bizarres, dit-il. En tout cas, ils estiment qu'ils étaient la meilleure équipe sur le terrain hier soir. On aurait envie de le croire, Salim.
C'est vrai qu'hier, il y a eu tellement d'opportunités. En off, on le disait avec Dominique, lorsqu'ils mènent 3-2, on se dit « Ah, c'est bon, ils ont réussi à égaliser sur l'ensemble des deux rencontres. » Mais comme
oui,
des gamins...
Il y aurait eu prolongation après.
Exactement.
Hein, c'était pas
exactement.
Gagné non plus.
Et comme des gamins, ils se prennent encore ce but en fin de partie. De toute façon, c'est le problème, c'est qu'offensivement, Monaco a été vraiment beau. Vraiment intéressant dans les actions, dans la
Ceux
construction.
Qui sont irréguliers, là, hier soir, ils étaient là.
Absolument. Mais
Sauf
le problème,
peut-être Mbolo.
Juste avant, Dominique disait quelle équipe vraiment défend bien cette année en Champions. Bon, on l'a compris, en tout cas, on le sait, Monaco défend pas bien. Hein. Ça, c'est acté. Le problème, c'est que quand vous avez, et ça, je remonte un peu plus, mais lorsque vous avez une équipe de Monaco qui veut miser sur beaucoup de jeunesse, beaucoup de fougue, alors soit en achetant des jeunes, soit en les formant, entre guillemets. Alors offensivement, vous avez parfois des pépites, Ben Seguir, Kliouche le prouve, mais défensivement, ça reste relativement jeune. Alors oui, votre cadre, c'est Thilo Kehrer qui est un plutôt bon défenseur, mais ça reste pas un top, et puis à côté, vous avez des joueurs moindres, mais ça se paye, et on l'a vu encore hier, comme lors du match aller d'ailleurs.
Bah, Thilo Kehrer qui a raté son match, mais bon, ça, évidemment, ça peut arriver. Dominique, surtout, et on le disait avec Salim pendant que Crépin Diatta parlait, mais c'est vrai qu'en fait, ils avaient perdu ce match au match aller, surtout. C'est-à-dire qu'ils perdent chez eux, à domicile.
1-0.
Alors, c'est sûr qu'il y avait beaucoup...
Mais on ne joue pas, c'est ça. C'est ça. Monaco n'a pas joué.
Ils ont fait un non-match, mais il n'y avait que 1-0. Donc 1-0,
tout était vraiment.
On a parlé tout à l'heure de Real City. Alors, si un but d'écart, c'est fini, on fait pas les matchs retour. Alors non, je trouve qu'il restait une possibilité. Je trouve que Monaco a pris le match comme il fallait. Il a un problème au milieu de terrain parce que Zakaria a été suspendu. Oui. Il a quand même renforcé son système. Il a fait un 3-5-1-2, 1-1 ou 3-5-2 avec Minamino collé à Mbolo. J'étais un peu circonspect. J'ai trouvé ça très bien, très cohérent. Pendant un quart d'heure, ils sont nettement au-dessus. Ils ont des occasions. Bon, ils ratent parce que Mbolo, il les rate. Même s'il est impliqué quand même.
Je crois qu'Akliouche, il fait un match pendant
1h10. Il est fantastique. Il est au-dessus. Il distribue. Ah, c'est le meilleur joueur sur la pelouse.
Il offre une galette, comme dirait Salim.
Ouais, enfin, mais voilà, si, erreur de Singo sur le premier but, erreur de
Singo qui revenait de blessure.
De Thilo Kehrer sur le penalty, et tout le monde pas concentré sur le troisième but qui consécutif à une touche provoquée par Mawasa, je crois, ou Ouattara qui vient de rentrer et qui a remplacé Caio Henrique. C'est pas possible en fait. Là, c'est vraiment l'attaque est tellement belle et c'est tellement son négatif cette défense. Ils sont tellement nuls. Ben vraiment, il y a pas d'autre mot. Hier soir, ils ont fait un match mais catastrophique. Il peut y avoir un tel écart entre la défense et l'attaque.
C'est ce qui est bizarrement presque une bonne chose, non, d'être éliminé, non, mais une bonne chose pour les dirigeants. Parce que pour les semaines et mois à venir,
le mercato est fini.
Non, mais vous savez, en février, on pense déjà au mercato suivant, évidemment.
Bien sûr.
Et encore plus, on le saura la prochaine semaine, si Monaco va en Ligue des Champions ou pas. Ça sera forcément l'un des objectifs de finir troisième ou à minima quatrième. Si Monaco y va, là, vous dites, vous êtes obligé de remodeler pleinement votre défense parce que vous pouvez pas aller en Champions.
Et le gardien, on se posait la question du gardien aussi.
Ah ben,
parce que sur le penalty, sa réaction est très bizarre. Non. Sur le premier but, sur le troisième but, il sort pas.
Et même Dominique, tout au long de la saison, soit Maïski ou son
remplaçant. Au Parc des Princes, il a encaissé des buts sur son petit côté.
Que ce soit lui ou Keun, avant ça Nubel, qui est parti depuis. Ouais. Enfin, là, c'est bizarre parce que Monaco a une tradition aussi d'avoir des bons et grands gardiens.
Ah bah oui,
mais là,
Subasic, Flavio Roma.
Ouais, exactement, mais là, sur ces dernières saisons, il se loupe totalement. Ça aussi, ça sera un travail réel pour la direction.
C'est important un gardien quand même.
Ah oui.
Ça peut aider.
En tout cas, Dominique, est-ce que justement cette équipe, parce que elle nous avait plutôt plu en début de saison, cette équipe de Monaco, on la voyait même peut-être plus haut, en tout cas avec plus de points qu'elle n'en a actuellement. On la voyait même peut-être chatouiller le PSG, ce qu'elle n'a pas fait. Oui. Est-ce que selon vous, finalement, là il y aura plus de compétition européenne. Justement, ces places de Ligue des Champions pour la saison prochaine, ça va être quelque chose d'atteignable pour eux. Avec la qualité quand même, au moins.
Ils sont éliminés de la Coupe de France, donc il reste plus qu'un seul match par semaine.
Ouais.
Mais attention, je trouve que Lille est dans une autre dynamique. Eux, ils vont jouer à 8e de finale de Ligue des Champions.
Oui. Et les deux premiers seront vraisemblablement Paris et Marseille. Donc,
ça. Marseille n'a plus qu'un match lui aussi, mais ça fait longtemps. Ils ont été éliminés de la Coupe de France. Ils n'ont pas fait beaucoup de tours, ils ont fait un ou deux tours. Donc Marseille a quand même. Ils ont beaucoup recruté au mercato, donc ils ont un effectif. Par rapport à un club qui a plus que 13 journées à disputer, il est surdimensionné. Et Monaco est menacé par Nice, dont on parle jamais, mais qui est quand même quatrième du championnat. Et surtout pour moi, Lille, qui pour moi est la meilleure équipe après le PSG en France. Mieux que Marseille, je trouve. Je trouve plus complète, avec des plus grands joueurs. Je trouve que Chevalier, David...
Ils sont parmi les 8 meilleurs d'Europe,
en plus. Et ils vont tomber...
Lille peut tomber contre Bruges ou contre le Sporting.
Voilà.
Donc Lille a en plus un tirage potentiel qui peut les amener en quart de finale. Je dis Sporting, c'est plutôt Dortmund. Donc Dortmund ou Bruges.
Même s'il faut se méfier de Bruges quand même. Hein.
Absolument. Mais bon, vous dites sur le papier, avec un match retour à domicile, puisque je rappelle, quand vous êtes qualifié directement en 8e, vous avez le retour chez vous.
C'est donc moi je crains pour la fin de saison. Je crois qu'il y a quelques problèmes avec Adiyoter. C'est pas le club que je suis plus, Monaco, mais dès que je regarde un article dans le journal, il y a marqué réunion de crise entre Hutter et ses joueurs.
C'est vrai qu'il y a eu ça.
En fait, toutes les deux semaines, j'ai l'impression qu'ils se réunissent pour dire que ça va pas. Et au bout d'un moment,
été prolongé il y a quelques semaines.
Après les dirigeants, ils tirent les conclusions. Quand vous avez l'effectif de Monaco, vous finissez pas dans les deux premiers. Vous sortez pas des 24, parce que là finalement ils sortent pas des 24. Ils sont sortis des 24, mais ils sont pas passés le play-off, le barrage. Je trouve que si les dirigeants sont un poil réalistes, je pense que Adi Hütter peut se faire quelques soucis. Donc ça fait quand même beaucoup, fin de saison, où tu ne sais pas si ton coach reste, une défense et un gardien à recruter. Ça commence à sentir mauvais.
Ce qui fait qu'au final, Monaco, ça va être très intéressant à suivre dans les prochaines semaines, justement, leur capacité de réaction en championnat à ne faire qu'un seul match. Il y a le Monaco-Nice, Nice-Monaco, je ne sais plus.
Il y a Monaco-Nice ce week-end.
Ben voilà, typiquement, c'est ce week-end. Donc là, typiquement, il va falloir se remettre dans la tête et se dire, on n'a plus que ce match-là et ce championnat à
Monaco,
jouer.
C'est feutré, il ne se passe jamais rien, mais là, vous savez, quand il faut régler les comptes, ils font comme tout le monde, ils ne font pas semblant.
Et puis Rebov Lavlev, il avait parlé là, ces dernières heures, le président, le propriétaire.
C'est pour ça que tout ça, aggloméré, ça va être vraiment intéressant à suivre l'AS Monaco, comment ils vont pouvoir réagir et se relever surtout.
Bon, eh bien évidemment, rendez-vous demain pour les résultats de tous ces matchs.
Je vous ai donné
sur la suite.
City,
Surtout le temps additionnel, 6 minutes.
On n'oublie pas. On reviendra demain sur l'élimination des clubs italiens avec Matteo Cioffi, mais n'oubliez pas donc rendez-vous d'ici 2h30 pour la soirée spéciale Real City avec nos envoyés spéciaux. Merci. We'll be right back.